France Inter. France Inter. Le 18-20. Christelle Rebière.
Le miracle du réconfort, un bonheur sans mesure, des aimés manuels d'un retour à la vie. Vous connaissez peut-être ces livres de philosophie. Alors oui, quand on entend leur titre, ça ressemble à du développement personnel, mais c'est bien de la philo. Celle avec laquelle vous étiez peut-être fâché en terminale, celle qui vous impressionnait aussi. Les Nietzsche et autres Spinoza vous ont paru inaccessibles. Eh bien aujourd'hui, c'est le retour en force de la philo. Moins académique, plus décontractée, on parle de philo feel good en bon français, de philo existentielle. Elle se glisse sur nos tables de chevet, dans nos bibliothèques et dans nos entreprises. De plus en plus de philosophes sont sollicités pour aider les salariés à savoir quel sens donner à leur travail. Certains font aussi des masterclass, des seuls en scène. Alors on se pose toujours les mêmes questions sur le sens de la vie, mais on cherche des réponses peut-être plus simples. Alors la philo est-elle en train de se démocratiser ou de se confondre avec le développement personnel? Vulgariser, est-ce simplifier ou au contraire aider le plus grand nombre à réfléchir? Que vous soyez un puriste ou un adepte de ces nouvelles parutions, on en débat tous ensemble. Après tout, l'art de la rhétorique a été inventé, paraît-il, par Aristote.
Le téléphone sonne. 01 45 24 7000.
Et pour dialoguer avec vous ce soir au téléphone sonne, nous sommes en ligne avec Marianne Chaillon. Bonsoir.
Bonsoir.
Professeure de philosophie, écrivaine et autrice d'essais grand public. En studio, près de moi, celui que l'on surnomme le serial thinker, le penseur en série. Lev Frankel, bonsoir.
Bonsoir.
Vous enseignez la philosophie à l'Université de Strasbourg et vous publiez régulièrement des vidéos de 3 minutes sur TikTok pour faire réviser les notions de base.
Parfois plus longues.
Et parfois plus longues. Bah, on va y venir. Et nous sommes en ligne avec quelqu'un que vous connaissez bien, Patricia Martin. Bonsoir, Patricia.
Bonsoir ma chère Christelle.
Animatrice de l'heure philo chaque vendredi à 20h sur France Inter pour découvrir ou redécouvrir les philosophes. La philo est partout, je le disais, mais pourquoi ce renouveau à votre avis, Marianne Chaillon?
Eh bien écoutez, c'est bien que vous disiez que la philo soit partout, j'en suis contente. Moi je constatais plutôt, et c'est ce qui anime mon propre geste, que ce qui était partout, c'était des ouvrages de développement personnel.
Oui.
Et s'ils sont partout, s'ils ont un tel succès, ces livres qui nous promettent de faire de notre quotidien un miracle, de devenir nous-mêmes en quelques protocoles, etc., ça dit quelque chose, ça dit que nous souffrons, ça dit qu'on n'est pas heureux, ça dit qu'on se demande comment l'être. Ça dit en somme qu'il y a un grand besoin de philosophie. Mmh. Et que malheureusement, ces ouvrages-là ont pris la place, qui est la place traditionnelle, parce que ce sont des questions traditionnelles de la philosophie, celle de savoir si le bonheur existe, si on peut l'atteindre, qu'est-ce que la liberté, l'homme est-il libre, etc. Et je trouve qu'il y a profusion, surtout, de livres de développement personnel, et peut-être, effectivement, aujourd'hui, il y a quelques professeurs de philosophie qui essaient de reconquérir ce territoire perdu de la philosophie. Vous avez cité quelques titres d'ouvrages qui,
oui.
Qui sonnent.
Le miracle du réconfort, c'est de la philo,
oui.
Non?
Alors, je ne l'ai pas lu,
mais c'est un livre, un auteur qui est un philosophe, me semble-t-il.
Oui, voilà, c'est un livre, en tout cas, il me semble, écrit par une professeure de philosophie.
Voilà.
Je ne l'ai pas lu, donc je ne peux pas parler de celui-là, mais bien d'autres livres, comme ceux de Claire Marin, de Laurence de Villers, que j'essaie moi-même d'écrire, effectivement, essaient de reconquérir ce territoire. Pour une raison, en fait, c'est qu'on considère que ces livres de développement personnel tiennent une fausse promesse à leurs lecteurs, que la demande des lecteurs est légitime, que cette demande existe depuis toujours, que c'est une question philosophique en somme, mais que les livres de développement personnel sont une illusion au sens presque freudien, puisqu'ils ne marchent pas, la thérapie ne marche pas, mais les ventes, elles, marchent, parce qu'on a besoin d'y croire.
Ouais. On va y venir. Je vous pose la même question, Patricia Martin. Est-ce que la philo est partout, ou est-ce que c'est un trompe-l'œil, comme le dit Marianne Chaillon?
Alors, d'abord, je voudrais préciser juste une chose, Christelle, c'est que je ne suis pas philosophe. Hein. Je ne suis qu'une passeuse de plats. Non, mais c'est vrai, je lis des livres de philo.
Mais vous avez un avis philosophes. Éclairé, Patricia.
Alors, éclairé, je ne sais pas. J'essaie, en tout cas. Non, mais je suis tout à fait d'accord avec Marianne Chaillant quand elle dit qu'il y a un grand besoin de philosophie. Je reprendrai aussi ce que vous avez dit dans votre introduction, Christelle, sur vulgariser, est-ce simplifier. C'est oui. vraiment un thème de dissertation.
Vous avez 4 heures.
Voilà, exactement, c'est ce que j'allais dire.
Bon, on va prendre le temps, hein, rassurez-vous. Bon,
mais je pense qu'il faut effectivement se méfier d'une utilisation opportuniste, plus qu'opportune dans ces cas-là, de la philosophie, voire de la récupération. C'est-à-dire qu'il y a aussi, il n'y a pas que, bien évidemment, mais il y a aussi du prêt-à-penser. La philo, c'est pas une liste de recettes pour aller mieux, c'est pas des réponses à tout, c'est même le contraire. Hein, ça pose des questions plus que ça n'en résout. Donc, à mon sens, la question, c'est plutôt comment rendre accessibles les grandes idées, ce que Marianne Chaillant fait, par exemple, à merveille. Quand on ne peut pas, si on n'a pas fait d'études de philo, moi je vous mets au défi de lire Kant, Nietzsche ou Merleau-Ponty. C'est vachement compliqué. Donc il faut passer par le biais. Voilà. Mais moi je suis exactement dans le même cas que vous. Hein. Je pense qu'il faut passer par le biais de ceux qui ont digéré. Une pensée, et ça demande du surplomb, de la distance. Il faut savoir le faire, c'est compliqué.
Comment rendre accessibles les grandes idées, disait Patricia Martin. Comment faites-vous, Lev Frankel ?
Alors, ce que j'essaye de faire dans mes vidéos et dans les livres que j'écris, c'est de rendre la philosophie accessible grâce notamment à des références à la pop culture, en montrant aux élèves qui sont déjà en train de réfléchir, en train de se poser des questions philosophiques, quand ils regardent une série sur Jeffrey Dahmer ou quand ils écoutent un morceau de musique, que ce soit Nirvana ou Booba, et que la réflexion est déjà là. Et que,
en fait, ils font de la philo sans s'en rendre compte.
Exactement.
Comme Monsieur Jourdain.
Voilà.
Il faisait de la prose.
Et si on vient avec une position de surplomb, en présentant une vision de la philosophie extrêmement élitiste, avec que des références culturelles que les élèves ne connaissent pas et que la plupart des gens, que le grand public ne connaît pas, eh ben, ça donne l'impression que la philosophie, voilà, ça parle à quelques personnes, au happy few, et c'est pas du tout le cas. La philosophie doit pouvoir parler à tout le monde.
Est-ce qu'il n'y a pas un problème d'enseignement ? Je m'adresse au prof qui est en vous, Lev Frankel.
Oui, bien sûr, c'est
sûr. Parce que la philo, pardon, mais ça reste encore extrêmement impressionnant quand on est en terminale.
C'est vrai, et c'est parfois une matière qui fait peur aux élèves, et c'est ce que j'essaye de faire effectivement dans mes vidéos. Alors, j'aime pas trop le terme de vulgarisation, mais voilà, de rendre accessible.
Et pourquoi vous n'aimez pas ce terme de vulgarisation ? C'est pas une insulte ?
Oui, alors, la plupart du temps, ce qu'on comprend par vulgarisation, c'est une simplification extrême qui va parfois, comme ce que disait Marianne Chaillant, jusqu'au. Finalement, on réduit la philosophie à une forme de développement personnel. Et ça, je m'en méfie. Il y a beaucoup de chaînes, parfois, effectivement, qui ont tendance à réduire. On voit ça sur YouTube, et même, parfois, c'est généré par des intelligences artificielles qui réduisent, effectivement, la philosophie à un prêt-à-penser, à quelques formules, à quelques recettes, et qui, non seulement, ne marchent pas, parce que je ne pense pas que, dans la vie, on peut se satisfaire de recettes pour aller mieux, mais en plus, c'est finalement une réduction de la philosophie à ce qu'elle n'est pas, à quelque chose de trop simpliste.
Allez, on va prendre un premier appel, c'est celui de Jacqueline. Bonsoir Jacqueline.
Oui, bonsoir.
Soyez la bienvenue.
Merci beaucoup. Je voulais que je vous explique un petit peu.
Eh ben, allez-y, on est là pour ça.
Bon, alors, je vais essayer de faire assez bref. Bon, voilà, j'habitais en banlieue parisienne et j'étais pas du tout scolaire. Donc j'ai eu un parcours très difficile et en plus j'avais des gros problèmes de santé, donc on m'a fait redoubler, enfin c'était vraiment compliqué, jusqu'à ce que j'arrive en terminale. Et comme je lisais beaucoup, etc., j'ai terminé mon année de philosophie avec le premier prix de philosophie du département, avec la meilleure note dans le département.
Et vous l'avez découverte toute seule, la philo ?
Ah oui. Oui, oui. Enfin, toute seule, avec mon professeur. Mon professeur m'a beaucoup, 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 beaucoup sauvé la vie, quoi. parce qu'elle a, bon, elle a vu que j'étais un peu spéciale, mais elle était assez étonnée, et donc elle m'a beaucoup soutenue. J'avais des problèmes de santé, j'étais souvent absente, et mais du coup ça m'a remise dans le, je voulais plus aller au lycée, quoi. Et en fait, ben voilà, j'ai terminé avec le premier prix de philosophie du département.
Et ben bravo.
Note.
Et ben bravo. Non,
c'était pour vous dire que c'est, et je continue. Hein. Enfin, je veux dire, c'est une réflexion qui est très importante pour moi. Ça m'aide tout le temps, tout le temps.
Ça veut dire que vous continuez à lire beaucoup de philo ?
Beaucoup de philo et beaucoup de poésie, oui, beaucoup, beaucoup.
Et,
oui.
quel est votre philosophe préféré, Jacqueline ?
Heidegger et Nietzsche. Je ne sais plus, tiens, je suis émue. Heidegger, Lacan, Nietzsche.
C'est déjà pas mal.
Les Grecs, voilà.
Ouais. Bon, merci beaucoup, Jacqueline. Heidegger, Lacan, joli programme, Marianne Chaillant, quand même.
Oui, et alors le témoignage de Jacqueline est évidemment très touchant pour l'enseignante que je suis.
Eh ben, c'est pour ça que je vous passe la parole, voilà. Parce qu'elle rend hommage. Bah oui.
Voilà, exactement, à cette enseignante dont elle dit qu'elle a sauvé sa vie. Et c'est vrai que souvent, elle décrit son parcours en disant qu'elle avait eu un parcours un peu chaotique, et qu'elle était un peu, je ne sais plus quel mot elle a utilisé, mais un peu à la marge.
Un peu différente, souvent,
Un peu différente, voilà. Et souvent, j'aime à penser que des élèves comme ça trouvent enfin leur maison quand ils arrivent en classe de terminale et qu'ils découvrent la philosophie. Et voilà, en fait, c'est une belle rencontre.
Comment vous les éveillez à la philo, Marianne Chaillant ? Comment faites-vous pour que d'un seul coup, il y a des petits yeux qui pétillent en face de vous.
En fait, je pense que chaque élève qui se présente porte en lui un désir de philosophie, même quand il l'ignore. Parce que c'est vrai que certains arrivent en se demandant ce qu'ils font là, pourquoi on leur met de la philo, ça va être comme du français en pire.
Ouais, ils trouvent ça abstrait quand même. Hein.
Ils n'aiment pas lire, ils se disent qu'ils vont devoir lire des trucs énormes. Et aussi, il y a cette image du prof de philo qui ressemble au doc dans Retour vers le futur, qu'il faut prendre des substances illicites pour réussir, etc. Mmh. Et donc, ils se disent, mais quelle est cette affaire ? Et puis, je crois qu'en fait, c'est en commençant à philosopher qu'on les voit. Alors moi, le premier cours que je fais, c'est « Peut-on penser par soi-même ? » Et ça rejoint ce que disait Patricia Martin tout à l'heure en disant que la philosophie, c'est pas du prêt-à-penser. C'est une invitation à penser par soi-même. Et donc, quand j'ouvre le cours de philosophie par cette question avec mes élèves, « Peut-on penser par soi-même ? » Tout d'un coup, ils se sentent un peu choqués. Comment ça ? Mais donc, je ne penserai pas par moi-même. Mais qu'est-ce que c'est cette question bizarre ? Et en fait, très vite, on déconstruit ce qu'ils croyaient être vrai. Et là, ils ont l'impression que tout tourne autour d'eux. Et c'est la rencontre avec la philosophie. Et ils sont saisis, mais parce que le questionnement philosophique, je crois qu'on le porte tous en nous, et on a ou pas la chance ensuite de faire des belles rencontres comme Jacqueline, d'enseignants qui nous permettent de rencontrer la philosophie. Oui.
Il y a une question de François à Marseille qui nous est arrivée via WhatsApp. Doit-on philosopher en 2025 comme on le faisait il y a 50 ans dans un académisme totalement rigide ? Je vous pose la question, Lev Frankel.
Alors, effectivement, il y a ce problème de l'académisme et on entend souvent... Il y a une bonne critique du développement personnel et des ouvrages de vulgarisation, mais il y a aussi une mauvaise critique qui se contente simplement, finalement, et on voit ça malheureusement beaucoup chez certains universitaires, c'est-à-dire que pour faire de la philosophie, il faudrait forcément écrire un bouquin de 500 pages incompréhensible. Mmh. Alors là,
vous évidemment, vous faites des vidéos très courtes, donc c'est absolument l'inverse.
Des vidéos plus courtes, oui, parfois qui vont jusqu'à 10-20 minutes aussi sur YouTube. Ouais. Mais effectivement, je ne pense pas que la philosophie doit nécessairement se présenter sous la forme d'un pavé de 500 pages incompréhensible avec du jargon à chaque ligne. Et c'est peut-être aussi un certain défaut de la philosophie française, et de s'enfermer dans un langage d'initié, et plus c'est incompréhensible, plus c'est profond.
Et oui, ça, j'y crois plus on est intelligent, en fait.
Voilà,
on a compris.
Voilà, ça c'est la mauvaise critique de la vulgarisation qui est simplement là, finalement, pour reproduire une certaine élite, ce que Bourdieu appelait le capital culturel, la reproduction de la classe dominante. Et pour ça, il faut absolument se rendre le plus hermétique possible. Et ça, voilà, ça c'est la mauvaise critique des ouvrages de vulgarisation.
Marianne Chaillant.
Oui, alors pour répondre à François, je voudrais quand même dire un mot pour mes collègues de philosophie, c'est qu'on n'enseigne pas aujourd'hui, sans doute comme il y a 50 ans, et nombreux sont les collègues qui enseignent, comme le décrit mon collègue là, dans l'émission.
Lev Frankel.
Oui, voilà. Nous sommes très nombreux à pratiquer une forme de pop philosophie, à essayer de nous rendre accessibles, à essayer de montrer à nos élèves que la culture populaire qui est la leur n'est pas inconsistante. Donc, et je crois que cette manière de faire de la philosophie, vraiment, qui est tout à fait moderne, cette caricature du prof de philo n'existe peu. Presque plus. On la doit aussi à certaines émissions de radio. Par exemple, Adèle Vendrette avait fait une magnifique émission sur culture et Patricia Martin, il faut le dire, sur votre antenne, leur philo, c'est extraordinaire et ça permet de donner accès à la philo de manière tout à fait compréhensible et sans être dans cet académisme un peu pesant. Mmh. Et néanmoins, je voulais répondre à François en disant oui, on ne peut pas tout à fait le faire aujourd'hui comme il y a 50 ans et en même temps, la philosophie, elle est intempestive, c'est-à-dire que les questions restent les mêmes et les réponses que nous sommes censés transmettre en tant qu'enseignants, celles des philosophes, elles demeurent. Donc il y a quelque chose qui... Il y a un inchangeable, quelque chose qui ne peut pas changer.
Et Patricia Martin, comment on la rend accessible, la philo, aujourd'hui ?
On se met à la place de l'auditeur et on essaye de faire en sorte qu'il comprenne quelque chose. Mais je dirais que, sans vouloir renvoyer un compliment à Marianne Chaillant, mais si tous les profs de philo étaient comme elle, mais il n'y aurait que des philosophes partout sur Terre. Pour avoir lu, elle est venue plusieurs fois à leur philo, pour avoir lu ses livres, pour avoir vu comment elle procède, c'est formidable parce que c'est à la fois intelligent, profond, elle est cultivée, elle s'appuie sur plein de concepts et en même temps elle est tout à fait accessible à qui veut la lire avec une certaine attention.
Donc, oui, déjà, Marianne Chaillant, playlist des philosophes, un ouvrage sur Game of Thrones, un autre sur Harry Potter.
Oui, et un qui s'appelait In Pop We Trust, qui est une sorte de mantra pour dire, voilà, je crois aux vertus de la culture populaire pour être un tremplin, en fait, un tremplin vers la culture philosophique. Très rapidement, un jour, un parent d'élève me demande un rendez-vous. J'étais angoissée, je me disais, qu'est-ce que j'ai fait comme bêtise? Et il vient pour me dire, écoute, il fallait que je vous dise ce qui m'est arrivé. J'ai tapé à la chambre de mon fils, puisqu'il ne venait pas à table, je me demandais ce qu'il faisait, et je me disais, mais pourquoi? Qu'est-ce qu'il vient me raconter? Et j'ai ouvert la porte, il lisait Épictète. Je vous demande rendez-vous, parce qu'il fallait que je vous dise ça. Vous avez réussi à faire lire Épictète. Et pourquoi? Parce qu'au cours précédent, j'avais parlé de Star Wars, et que cet élève aimait Star Wars, et que j'avais fait un lien avec Épictète. Et voilà, et c'est un tremplin. Attention, il ne s'agit pas de se substituer à la lecture philosophique, et le fait est, l'élève a lu Épictète. C'est ça l'idée, c'est d'ouvrir la porte, c'est pas de remplacer.
Parce que la philosophie, c'est la vie, en fait, c'est toute la vie.
Absolument. Mais oui, bien sûr. C'est ce que je disais au départ. Ce sont des questions existentielles qui animent le questionnement philosophique.
Allez, on repart au standard. Retrouvez Frédéric, bonsoir.
Oui, bonsoir.
Soyez le bienvenu, Frédéric.
Merci.
Nous vous écoutons.
Alors, en fait, moi, je pense que la question de la philosophie, c'est vrai qu'aujourd'hui, on a beaucoup de vulgarisation. Moi, je suis pas du tout un spécialiste de la philosophie. J'enseigne pas, je lis pas de philosophie. Bon, par contre, je travaille dans le domaine des arts plastiques et je pense que ça pose les mêmes questions que la culture d'une certaine manière. Et la culture, c'est pour moi, c'est une coquille vide si on regarde pas en soi, si on se questionne pas et si au bout on n'aiguise pas son esprit critique. Mm-hmm. Je pense qu'il y a un philosophe. Merleau-Ponty qui disait on est un corps voyant et visible et finalement pour percevoir le monde l'extérieur on doit aussi regarder en soi et ça pose aussi une question d'un rapport au temps des nouvelles technologies qui dispersent notre attention.
Des nouvelles technologies.
Du néolibéralisme aussi qui fait souffrir les gens au travail souvent. Oui. Et les gens ont besoin d'un exutoire le soir ou le week-end. Ils pensent qu'ils vont devenir philosophes, ils pensent qu'ils vont devenir artistes. Mais pour ça, il faut pouvoir avoir une sensibilité, être capable de faire un cheminement vers soi.
Je retiens ce que vous avez dit tout à l'heure, Frédéric. La philosophie, c'est l'esprit critique, Lev Frankel.
Oui, exactement. Et c'est en ce sens-là, je pense, que la philosophie a plus à voir avec une déconstruction personnelle, parfois, qu'un développement personnel, puisqu'on en parlait justement juste avant. Cette déconstruction, c'est la déconstruction des normes dans lesquelles on a grandi et auxquelles on est habitué et qu'on n'interroge plus. L'enfant, spontanément, interroge les normes autour de lui. Tout est étonnant pour un enfant. À l'âge adulte, en général, on arrête de s'étonner. Et le philosophe continue, lui, de le faire. Mmh. Il continue de ne pas être complice des normes dans lesquelles il a vécu. Et on voit ça avec Socrate, le fondateur de la philosophie, qui n'est pas complice avec le polythéisme dans lequel il a grandi à Athènes et qui l'interroge jusqu'au point, justement, jusqu'à se faire assassiner par un tribunal athénien parce qu'il interroge de manière trop violente ces normes. On le soupçonne de ne pas croire au dieu de la cité. Je pense aussi, quelques siècles plus tard, à Spinoza, qui a grandi dans une famille juive pratiquante, croyante. Il va interroger les normes, il va remettre en question, c'est ça l'esprit critique dont Frédéric parlait, hein. Il va déconstruire les normes dans lesquelles et les croyances dans lesquelles il a grandi, finalement jusqu'à se faire excommunier par sa communauté. Donc il y a quelque chose, il y a une prise de risque, et c'est en cela aussi la différence avec... on n'est pas dans une vision béate du bonheur, la philosophie, comme une forme de recette pour accéder au bonheur. Au contraire, je crois qu'il y a une aventure dans la philosophie qui est extrêmement risquée. Cette aventure qui est risquée, c'est celle de prendre le risque à un moment de se détacher des normes dans lesquelles on a grandi. Et c'est parfois un chemin. Alors c'est un chemin qui est en dehors des sentiers battus, mais dans lequel on développe sa singularité et sa liberté. Mm-hmm. Et je crois que c'est ça qui est le plus important, justement, dans la démarche philosophique, peut-être plus que la question d'une certaine forme d'accès au bonheur.
Patricia Martin, vous êtes d'accord avec ce côté aventure risquée ?
Entièrement, c'est un chemin sacrément escarpé, parce qu'on sait d'où on part, on ne sait pas du tout où on va arriver, on ne sait pas combien de temps on va mettre, peut-être très longtemps, peut-être 3 minutes, non, 3 minutes sûrement pas, combien de fois on va trébucher, combien de fois on va être rebuté. Mais je voudrais revenir sur une chose que Lev Frankel a dit tout à l'heure, sur la vision élitiste qu'on peut avoir de la philo, donc qui fait qu'effectivement, beaucoup de gens, d'abord, plus on l'apprend jeune, parce que les petits, écoutez les petits bateaux, hein, les questions qui sont posées par les mômes, ce sont des questions philosophie.
C'est vrai.
Donc il faut les. Je ne sais pas pourquoi on attend que les lycéens aient 17 ans pour les mettre à la philo. Ça, c'est une aberration. Mais cette appréhension et cette peur, en plus qu'on se met tout de suite à étudier des choses très difficiles, donc ça peut causer une peur. C'est exactement comme certaines personnes qui ne vont pas oser pousser la porte, je ne sais pas, d'un musée ou d'un opéra. Si on le fait tard, eh ben on se dit, eh ben non, ce n'est pas pour moi. Si, la philo, c'est absolument pour tout le monde. Alors évidemment, ça ne va pas quand vous êtes, c'est là où ça se différencie évidemment des leçons diverses et variées qu'on nous donne, mais si vous êtes coincé dans un embouteillage et que vous êtes impatient, ça ne va pas vous aider, la philosophie. En revanche, puisque vous parliez tout à l'heure, Lev Frankel évoquait Spinoza, qui est quand même un auteur assez difficile, et bien moi j'ai un ami qui est en plein deuil en ce moment, qui vient de perdre le compagnon de toute une vie, et bien il se plonge dans Spinoza par des chemins divers et variés, mais il y arrive, et ça l'aide énormément.
Et c'est mieux que le développement personnel ?
Mieux, j'en sais rien, c'est différent, c'est peut-être plus exigeant et c'est moins rapide, ça c'est sûr. C'est pas des solutions clés en main.
Marianne Chaillant, qu'est-ce que vous en dites ?
Que l'exemple que prend Patricia est très beau et très juste, en particulier avec la lecture de Spinoza, qui soutient qu'on ne peut connaître la nature des choses sans en être profondément modifié. Et que donc, quand on lit l'éthique, puisqu'il écrit l'éthique, c'est pas simplement une aventure théorique, c'est une aventure qui va nous modifier aussi. La compréhension que Spinoza va essayer de nous donner va modifier notre rapport au monde et peut-être nous aider à vivre, je le souhaite pour l'ami de Patricia, ou à survivre. Mais ce qui est bien chez Spinoza, et qui différencie notamment donc, du développement personnel, c'est qu'il n'y a pas de promesse de guérison totale chez Spinoza, c'est-à-dire qu'il ne va pas ouvrir l'éthique en disant si tu me lis en cinq exercices, alors chez lui c'est des parties, mais voilà, tu verras, je vais te donner toutes les clés qui marchent pour tout le monde et tu seras totalement et absolument heureux. Non, chez Spinoza, il y a l'idée qu'on peut réduire la passivité de notre âme, on peut réduire les affects tristes par la connaissance claire et distincte qu'on va en avoir, mais ça ne sera jamais total. Donc là, la philosophie est un auxiliaire de vie, elle aide à vivre, mais elle ne dit pas j'apporte la réponse, je suis une thérapeutique définitive. C'est pas tout à fait pareil, quoi. Mm-hmm.
Vous êtes d'accord avec ça, Lev Frankel ? Elle nous aide à vivre, la philosophie ?
Oui.
De réponse toute faite. On a bien compris tous les livres de développement personnel, ça n'allait pas du tout.
C'est ça. En fait, bon, on a fait une grosse critique du développement personnel. Après, dans le développement personnel, il y a beaucoup de choses très différentes. Il y a ce qu'on peut appeler avec Nietzsche la moraline, les petits conseils qu'on peut voir un petit peu. Bon, je vais être un peu méchant avec les quatre accords Toltec, mais voilà, bien parler, des petits conseils comme ça de vie, ou alors, je sais pas, Mars et Vénus, comment s'entendre dans son couple.
Oui,
c'était
un gros succès.
Avec des gros stéréotypes de genre et des petits conseils comme ça qui des sortes de recettes toutes faites, effectivement. Mais je crois que dans le développement personnel, il y a aussi d'autres choses. Et le développement personnel, c'est parfois aussi inspiré.
Et c'est aussi un peu la philo, le développement personnel, quand même.
C'est vrai, parce que la question du bonheur, c'est quand même la question.
Elle est centrale.
Des philosophes, notamment de l'Antiquité. La philosophie de l'Antiquité est eudémoniste, c'est-à-dire qu'elle a pour but l'accès au bonheur, mais c'est pas un bonheur. Effectivement, c'est une vision du bonheur qui est quand même, quand on voit Socrate qui finit condamné par un tribunal athénien, c'est pas une vision du bonheur complètement béate. Mais effectivement, on retrouve dans le langage des coachs aujourd'hui, par exemple, la dialectique hegelienne qui consiste à se confronter à une adversité pour finalement devenir la meilleure version de soi-même dans le langage des coachs, c'est une idée, c'est la dialectique hegelienne. Et moi, il m'arrive de la présenter comme ça aux élèves parce que, d'abord, parce que c'est un langage qu'ils connaissent, et sortir de sa zone de confort, se confronter à un adversaire pour devenir meilleur. Ça m'arrive parfois d'utiliser ce langage-là avec les élèves parce que ça leur permet de voir qu'il y a aussi une certaine efficacité de la philosophie, qu'il y a aussi que c'est pas quelque chose de complètement éthéré, métaphysique, et que ça peut aussi servir dans la vie, et tout en ayant cette méfiance avec ce discours-là des coachs qui finalement est une manière toujours de développer l'ego. D'une manière, c'est-à-dire qu'on se confronte à une adversité, finalement, pour devenir la meilleure version de soi-même, mais finalement, pour développer l'ego qu'on n'interroge jamais. Mmh. Alors que la philosophie, au contraire, elle va interroger, justement, la réalité de cet ego. On va, parfois, alors on a parlé de la psychanalyse avant, mais la psychanalyse va interroger, justement, la pertinence de cet ego-là, en montrant que souvent, l'ego est imaginaire, qu'il est le résultat d'identification imaginaire, notamment avec le stade du miroir chez Lacan, des projections, des fantasmes, et finalement le résultat de ce que nos parents nous ont mis dans la tête.
Marianne Chaillon.
Oui, alors je voudrais dire deux choses. La première, c'est parce que je me mets à la place de vos auditeurs, comme Patria le disait tout à l'heure, et peut-être certains ont été sauvés par des livres de développement personnel, donc je voulais aller dans le sens de Lev et faire une différence dans le développement personnel. S'il y a des livres qui ont sauvé certains de vos auditeurs, alors vive le développement personnel. D'ailleurs, il y a un très beau roman d'Étienne Kern, qu'il a publié cette année chez Gallimard, qui s'appelle La vie meilleure, et qui était consacré à Émile Coué et à sa méthode Coué.
Oui, la fameuse.
Qui est sa fameuse méthode, qui est une illusion absolue, mais qui fonctionne. Et si ça fonctionne, eh bien tant mieux. Mais ma peur à moi, c'est que le développement personnel laisse les lecteurs encore plus malheureux
démunis
qu'ils ne le sont. Oui, parce que y a pas... Et là, pour le coup, c'est la deuxième chose que je voulais dire. Pour moi, il y a vraiment une différence majeure entre le développement personnel et la philo, notamment sur la question du moi, puisque quand on nous dit « deviens la meilleure version de toi-même » ou « quand tu veux, tu peux », enfin, ce genre de truc « deviens toi-même », on se trompe en faisant du moi une réalité toute puissante, alors que les philosophes stoïciens, que souvent on dit « ah, mais c'était des maîtres à penser, des coachs de vie », enfin, tout de même, les stoïciens sont ceux qui nous disent qu'il va falloir consentir à la nécessité. Le moi n'est pas maître en sa demeure du tout. Mmh. Donc il y a vraiment une humilité dans la philo.
Donc la, là, philosophie, la philosophie interroge et le développement personnel donne des solutions. C'est ça ?
Mais il y a quand même des solutions dans la philo. Il y a des solutions dans la philo, mais au début de l'émission, Patricia Martin mettait en garde la philo, et je pense que c'est en garde très importante au moment où vous dites qu'il y a ce renouveau de la philo. C'est que oui, il y a une nécessité de faire descendre la philosophie dans l'agora, face aux besoins de philosophie, de réinvestir son champ propre. Mais attention, si le philosophe s'égare en oubliant que son geste propre, c'est d'apprendre à penser et pas de dire quoi penser, s'il se caricature en prétendant pouvoir tout solutionner en 5 exercices, si peut-être par envie du succès du développement personnel, par appât du gain ou que sais-je, il s'oublie et fait des fausses promesses, Bref, si le philosophe devient lui-même un sophiste, alors la philosophie aura tout perdu et elle se sera portée elle-même le coup fatal.
Absolument. Donc vraiment,
voilà.
Bon, on poursuit cette conversation avec Nicolas. Bonsoir.
Bonsoir.
Nous vous écoutons.
Oui, je voulais juste apporter un témoignage à la suite un petit peu des différents auditeurs. C'est que je me souviens très bien, moi, de ma professeure de philo de terminale. J'étais pas un élève très, très doué, même assez en échec scolaire. Mm-hmm. Et puis, lors d'un cours, je crois que c'était sur Platon, elle a cité Gogol Ier, La Horde, qui était un groupe de punk français que j'écoutais à l'époque. Et elle avait fait un lien comme ça, un peu libre, et ça m'avait beaucoup intrigué. Et puis, elle m'avait soutenu un petit peu, alors que tous mes professeurs m'attendaient pour l'année suivante d'un redoublement. Elle m'avait soutenu en me disant que j'étais pas fait pour le système scolaire classique et que j'allais trouver à la faculté une autre façon d'apprendre. J'ai eu mon bac, laborieusement, mais je l'ai quand même eu, et avec un 15 en philo, je m'en souviens.
On se souvient toujours de sa note de philo, hein. Je sais pas pourquoi, mais oui.
Et puis, j'ai eu mon bac, je me suis inscrit en psychologie, j'ai eu mon DESS de psycho, ça fait 25 ans maintenant que je suis diplômé, que j'exerce. Je me suis inscrit à la fac de philo après mes études de psycho, mais j'ai pas poursuivi parce que je trouvais que l'enseignement était trop académique. Voilà, peut-être que j'ai.
Donc vous êtes bien placé pour nous dire qu'il faut pas confondre psycho et philo.
Ah non, c'est deux choses différentes. Deux choses différentes.
Parce que justement, dans ces livres de développement personnel, on peut facilement confondre les deux.
Ah non, mais alors, je pourrais pas dire tout le mal à l'antenne de certains livres de développement personnel.
Ça a déjà été fait, je crois.
Oui. Mais non, c'est deux choses tout à fait différentes. Et puis. Je continue, moi, à lire un petit peu de la philosophie, mais à distance. Et puis, la philosophie que je lis est très influencée par la psychologie, notamment par la psychanalyse. Mm-hmm. Mais voilà, c'est toujours, pour moi, un souvenir important.
Mm-hmm. On a été marqué, Marianne Chaillant, par des œuvres, soudain, on a rencontré un philosophe, parce que quand on est adolescent, c'est quand même une période de la vie très particulière, et soudain, on rencontre un philosophe qui nous parle de nous et qui peut changer notre vie.
Oui, comme aussi, on peut rencontrer un romancier, je crois, en cours de littérature, Donc, les œuvres, la culture en général peut nous aider à vivre, et la philo en particulier. Et je remercie Nicolas, puisque le deuxième auditeur qui ce soir nous fait entendre tout le mérite des enseignants en général, et en philosophie ce soir en particulier. Mais c'est touchant, ce témoignage, ce souvenir qu'il a de sa prof de philosophie.
Absolument. Et d'ailleurs, les profs, ils sont pour beaucoup quand même, hein, dans la transmission.
Et voilà, c'est ça, quand vous dites on rencontre une œuvre, on rencontre aussi des profs. Et tout à l'heure, vous évoquiez la philo pour les enfants. Et il y a des profs de philosophie qui, aujourd'hui, vont faire cours aux enfants. Il y en a, en France, la chef de file, Edwige Chirouter, qui a même une chaire à l'UNESCO pour apprendre aux professeurs de philosophie comme moi à faire de la philosophie avec les enfants. Donc, et les petits bateaux, merveilleuses émissions, où effectivement, les enfants posent des questions absolument
philosophiques. On peut commencer à quel âge ?
Il y a, comme le dit Épicure, il n'y a pas d'âge pour philosopher.
Bon, il y a une question aussi sur WhatsApp d'Angèle qui nous dit « Il y a un vrai problème de langue avec les textes anciens. Le français de Descartes n'est pas celui d'aujourd'hui. » Qu'est-ce que vous lui répondez, par exemple, Lève Frankel ?
Oui, c'est vrai. Il faut absolument adapter. Moi, quand je fais, par exemple, du Descartes avec les élèves, je le retraduis dans un français plus actuel. Sinon, effectivement, on risque de perdre complètement les élèves. Et c'est là où je crois que, il faut se méfier d'une certaine forme d'académisme ou d'élitisme qui, pour le coup, contribuerait à donner une image de la philosophie qui est réservée, à quelques personnes qui disposeraient du capital culturel. Et ça, ce serait dommage. C'est l'écueil qu'il faut essayer d'éviter quand on essaye de rendre la philosophie. Voilà. Et c'est pour ça qu'il faut se hâter de rendre la philosophie accessible.
On a reçu un courriel de Sylvie qui nous dit « Qu'est-ce qu'une philosophe ? Qui et comment une personne peut se définir philosophe ?» Marianne Chaillon.
je vais faire une réponse très étymologique.
Oui.
Parce qu'elle est plus humble, mais le philosophe, c'est celui qui désire la sagesse. Non pas celui qui la possède, mais celui qui la désire. Et Et donc, si votre auditrice se pose des questions, cherche, sans qu'elle ne sait pas, elle sait déjà quelque chose, c'est qu'elle ne sait pas, elle est déjà sur la voie de la philosophie, elle est déjà en train de philosopher.
Sophie Appot, vouloir simplifier des concepts compliqués, n'est-ce pas les vider de leur substance, Lev Frankel ? On en a déjà un petit peu parlé,
oui. Hein,
mais est-ce qu'on ne simplifie pas aujourd'hui à l'excès pour essayer de faire passer un message ? Vous, quand vous faites vos vidéos sur TikTok, elles sont courtes, mais elles ne sont pas simplistes.
C'est vrai, je crois, j'espère.
Bah oui, oui, franchement, c'est assez profond quand même. Il y a beaucoup de choses. C'est ouais. Même, faut s'accrocher un peu quand même, parce que ça va vite.
C'est vrai. Ah, c'est ce que j'essaye de faire. Mais effectivement, il y a aussi une tendance, j'en ai parlé un petit peu avant, dans la philosophie française, à s'enfermer comme ça dans une langue d'initié, dans un jargon. Et je trouve ça dommage. Alors parfois, la complexité de la langue permet de produire une certaine forme d'effet poétique. Ouais. Chez Derrida, chez Lacan, il y a quelque chose comme ça. Il y a un effet littéraire, poétique, mystérieux. Mais dès qu'il y a du mystère, il y a quelque chose qui est attirant. On sait très bien que c'est voilà, il y a rien de plus séduisant que le mystère dans tous les domaines, hein, même dans les relations humaines. On n'a pas envie de tout savoir tout de suite. On a envie de découvrir et on a envie de et notamment. Quand on lit certains textes et qu'on les comprend, certains textes de Lacan, au bout d'une heure d'effort, de deux heures d'effort, on a vraiment l'impression d'être très intelligent parce qu'on a compris quelque chose. Il y avait un mystère qui s'est dissipé à un moment, ou pas.
Oui, parfois, ou pas.
Chez Lacan, ça se dissipe parfois jamais. Voilà.
Qu'est-ce que vous en dites, vous, Patricia Martin ?
Je ris parce que, parce que dans notre émission, je dis notre parce qu'on est vraiment trois à la faire avec Chantal Le Montagnier et notre réalisateur Lilian Alaume. Donc on écoute beaucoup d'archives. Combien d'archives de Lacan n'écoutons pas ? Nous écoutons plutôt dans le bureau en riant parce que je me dis que parfois il ne devait pas lui-même comprendre ce qu'il disait tellement, tellement il dit tout et son contraire quelquefois dans une seule phrase. Non mais il y a des philosophes, en plus aujourd'hui on a quand même du bol, on a des philosophes qui sont extrêmement compréhensibles. Pas évidemment, Marianne Chayan est un exemple, mais si je prends celui de Maxime Revert, il a traduit, il a retraduit l'éthique, et franchement, je pense que je vous dis pas que vous allez lire ça 4 heures d'affilée, mais vous pouvez le lire. Il a écrit un très beau roman autour qui s'intitule Le clan Spinoza, c'est-à-dire tous ces gars qu'on voit exister autour de Spinoza et qui ont pris des risques, ils ont vraiment risqué leur peau, hein, vous le disiez tout à l'heure, Lev Frankel. Donc ça, c'est parfaitement compréhensible. Si vous lisez Pourquoi la guerre de Frédéric Gros, par exemple, je trouve que c'est vachement, enfin voilà, c'est pile poil dans ce qu'on vit. Si vous lisez Alyosha Wallazowski sur James Bond et le secret, vous comprenez. Lisez Clément Rosset sur le bonheur. Lisez Lévinas. Non, mais je vous assure, faites-le pas, franchissez-le.
Bon, voilà, en fait, n'ayez pas peur de la philo, c'est un peu le message qu'on va retenir ce soir, Lev Frankel, rapidement pour conclure.
Oui, effectivement, et Patricia a cité beaucoup d'auteurs, on pourrait aussi citer des universitaires, j'ai dit avant que parfois les universitaires s'enfermaient dans une forme d'académisme, mais on a par exemple Francis Wolff qui écrit un livre Pourquoi la musique, qui est extrêmement clair et qui permet de comprendre des choses pour les néophytes.
Merci Marianne Chayan, juste on peut démarrer avec quoi ? Donnez-nous un titre, un philosophe, si on veut s'y mettre. Rapidement.
Oh, bon, comme c'est difficile, enfin. Eh bien, je dirais un philosophe qui s'appelle Ruven Ogilin et qui a écrit des livres magnifiques, accessibles sur l'éthique, mais aussi un livre un peu plus difficile, douloureux, son dernier, mais « Mille et une nuits », où il réfléchit sur voilà, il était atteint d'une maladie. Voilà, et est-ce que la souffrance a un sens ?
Voilà, bah super. Merci à vous tous. Merci d'avoir participé à ce débat et d'avoir dialogué avec les auditeurs.
Merci.
Bonne année à vous trois. À suivre après 20h, les petits bateaux. On en parlait justement avec la question de Kim Anne, 6 ans.
Je voudrais savoir pourquoi ça fait du bien de faire des bisous et des câlins.
Bah oui, ça fait du bien, effectivement. C'est une bonne question, la réponse dans quelques minutes.